Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, je vous propose de pousser la porte de cet atelier de violon baroque. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Rider.
Vous êtes déjà rentré dans une salle des maîtres, comme on dit. À gauche, sur la photocopieuse, il y a un écriteau. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils ont essayé, ils ont réussi. C'est à propos des premiers hommes qui ont marché sur la Lune. Puis à droite, ceux qui peuvent font et ceux qui ne peuvent pas enseignent. J'imagine que dans toutes les salles de classe, il y a ça, dans les salles des maîtres. Aujourd'hui, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas parce qu'on peut savoir et enseigner et faire en même temps.
Voilà, on peut avoir les deux talents. Et Claudia Hoffmann, qui est l'invitée de l'émission d'aujourd'hui, est plutôt d'abord une soliste, une violoniste qui a beaucoup de succès en Allemagne. On ne la connaît pas tellement ici, dans le monde du violon baroque. C'est une des jeunes figures à découvrir, probablement.
Claudia Hoffmann, oui.
Claudia Hoffmann, qui vient de Fribourg-en-Brisgau, qui a fait ses études aussi à la Schola Cantorum de Bâle, et qui a été invitée dans le 4e atelier de musique ancienne de Gruyère, à donner pendant 3 jours des leçons de violon baroque à des gens qui n'avaient Et je crois, d'ailleurs, tous les participants n'avaient jamais touché, ou à peine, si, une des participantes avait un peu joué de violon, mais les autres, qui étaient soit des professeurs du conservatoire de Fribourg, soit des violonistes de Suisse romande, ou encore des élèves en classe professionnelle, n'avaient jamais abordé cet instrument avec ses archets spéciaux, comme on a vu hier, avec ses cordes et sa façon de jouer qui est tout à fait différente.
Alors, on va se rendre compte aujourd'hui, ça s'apprend, semblez-vous dire, et donc ça s'enseigne. Si ça s'enseigne, ça s'écoute. On vous suit auprès de Claudia Hoffmann.
Voilà, donc j'ai passé quelques heures à suivre ces cours tout à fait passionnants parce que Claudia Hoffmann est quelqu'un de tout à fait pétulant, donc une jeunesse, une rousseur aussi tout à fait agréable. Claudia Hoffmann qui sait tout apparemment, malgré son jeune âge, de l'art de l'ornementation baroque. Elle enseigne les petits ornements à rajouter sur les notes écrites pour que ça fasse dans le style français ou le style italien, qui sont deux choses assez différentes au XVIIe siècle. Et puis, elle sait aussi comment acquérir l'aisance d'avoir cet instrument différent dans les mains, puisqu'on ne le pose pas sur un petit coussinet comme on a l'habitude pour les violonistes traditionnels, mais on doit le tenir un peu en l'air, et elle indique tout ça à ses élèves. Une qualité, malheureusement, que Claudia Hoffmann n'a pas, c'est le parler français.
Oui.
Et donc, toute cette leçon a été donnée en allemand. C'est pour ça qu'on n'en entendra que quelques petits extraits traduits.
Goûte.
Et le premier qui précisément nous explique le béaba, donc la position des pieds et du violon, la tenue dans cette classe d'interprétation de violon baroque de Claudia Hoffmann.
Alors la lettre, c'est Florence Grivel qui l'a traduit, et puis l'esprit, vous allez le saisir vous-même en suivant David Mestri dans cette classe de maître.
Quand vous jouez, vous êtes plutôt haut, les deux.
Alle beide eigentlich, wenn ihr spielt, seid ihr eher drüber.
Je crois que c'est encore la question de la pression de l'archet. Il faut simplement s'accorder avec la même force que quand on joue. C'est encore un peu haut le mi. À propos de l'accord, en général, c'est souvent plus facile d'accorder à partir du ré, d'après mon expérience, avec un théorbe ou un clavecin, c'est égal. Et ne pas accorder trop haut la corde de mi, plutôt un peu plus bas que d'habitude, sinon c'est trop aigu. Je ne peux pas dire pourquoi et comment, c'est simplement l'expérience.
Ok, gut, magst du...
On essaye une corde à vide, les épaules ouvertes, et en jouant, j'ai remarqué que tu étais un peu loin sur la touche. Attention à ne pas glisser vers le bas, sinon le son n'est plus très clair.
Genau. Beim Spielen ist mir aufgefallen, dass du ein bisschen weit am Griffbrett warst eben gerade. Einfach aufpassen beim Spielen, dass du nicht hier runterrutschst, weil dann wird der Ton nicht klar. Und du kannst auch einmal ein bisschen Ansätze üben. Genau. Ja, super. Genau. Gut. Dann zum Strich. Also, ihr müsst gucken, dass ihr immer wieder, wenn schwere Töne kommen, immer Abstriche machen. Ja? Also, wenn es sowas sein soll.
Ensuite, pour le coup d'archet, toujours faire attention à tirer quand il y a des notes importantes, difficiles. Toujours tirer.
Schon drin stehen, aber nicht gemacht.
Thank you.
Pour jouer du violon, on tient cet instrument de la main gauche et l'archet de la main droite. On le prend par le manche en sorte que le revers du manche soit tourné du côté du creux de la main, le pouce de la main gauche du côté du revers et les quatre autres doigts de la même main de l'autre. L'index doit être près du sillet et les autres doigts près les uns des autres, prêts à toucher la chanterelle. On porte ensuite, en tournant le poignet, la partie inférieure du corps de l'instrument sous le menton, en sorte que le tasseau où le bouton est attaché réponde sur la clavicule gauche vers laquelle on tourne et on incline un peu la tête pour appuyer avec le menton et ainsi affermir l'instrument. On prend l'archet avec la main droite à environ 2 pouces de distance de la hausse et on le tient avec les 4 premiers doigts, en sorte que le pouce et les 2 premiers doigts portent sur le fût de l'archet et le 4e ou annulaire sur le crin que l'on doit faire passer sur les cordes à environ 2 pouces de distance du chevalet, comme si on voulait les scier en cet endroit. On frotte les crins de l'archet sur un morceau de colophane, sorte de résine, pour le rendre plus rude. On passe ces crins sur la colophane, comme si on voulait le scier en deux. Quelques-uns le mettent en poudre et passent le coin de l'archet dans le papier où est cette poudre. Ces deux manières reviennent à peu près au même. C'est par le moyen de la colophane que les crins de l'archet tirent des sons des cordes, parce qu'autrement, ces crins seraient trop gras ou trop lisses pour leur causer le frémissement nécessaire et les faire résonner. Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie, extrait de l'Encyclopédie méthodique, Paris, 1785.
Nehmen wir der A, ah, müsste eigentlich mal geschmiert werden und ich habe die richtige...
Il faudrait mettre un peu de colophane.
Der A-Wirbel braucht die Wirbelseife, die zu Hause in Cornwall liegt. So, jetzt. Okay. Gut, was machst du? Sag mal,
Frescobaldi.
Ja, sehr schön, genau. Okay, und wie geht es mit dem Stehen und mit der Geige? Zeig mal.
Comment va le chevalet, le violon?
Ja, ja, okay. Barockgeigen sind auch angenehmer mit dem Hals zu halten.
C'est un moderne. Les violons baroques sont plus agréables et plus faciles à tenir contre le cou.
Ah,
je vois que tu as un archet moderne. Tu l'as pris intentionnellement. Il correspond au violon, bien sûr, mais pour jouer Frescobaldi, peut-être prends-en un autre. Il y a des archets du début du baroque pour l'occasion. C'est juste pour le violon, mais quand même, si tu joues Frescobaldi. Mais celui-ci n'est pas mal du tout. C'est un archet pré-baroque. Il n'y a pas besoin de le tendre. Il a une hausse coincée, on ne peut pas la bouger. Il ira bien.
Den Frosch nicht bewegen. Also, probieren wir den.
On essaye?
Es wird jetzt wahrscheinlich ganz anders.
Ce sera complètement différent, mais ça ne fait rien.
Okay. Was ist denn das Problem mit der Geige?
Quel est le problème avec le violon? Pourquoi glisse-t-il toujours?
Lass mich mal probieren.
Je peux essayer?
Darf ich mal? Ob das irgendwas an der Geige ist?
Nö, die liegt prima.
Elle va bien. Il faut un peu presser avec la main gauche, mais surtout le poser simplement sur la clavicule. Et peux-tu encore bouger le bras sans déplacer le violon? Ça n'est pas si simple. Et puis bien se reposer sur les deux jambes, pas sur la gauche seulement, plutôt sur la droite, et voir si le dos est droit. Ne pas lever l'épaule du côté du violon. Essaye une corde à vide avec l'archet pour voir comment l'archet se comporte. Attention à ne pas être trop près du chevalet, sinon c'est un peu trop aigu. tu peux essayer avec du poids, oui, mais pas trop, parce que maintenant, l'archet est très léger, c'est différent. L'archet baroque ancien est plus court qu'un baroque moyen, et c'est bien pour la musique d'utiliser un archet aussi court.
Durchschnittsbarockbögen, die man so hat. Und sie hat welche da, also könnt ihr mal probieren, wenn ihr wollt. Und es ist einfach schön für die Musik, wirklich so einen kurzen Bogen. Wenn du willst, kannst du auch unten anfassen, bei dem Bogen. Ich habe sie vorhin probiert, ist sogar angenehm.
Aber wenn si tu veux, tu peux aussi le tenir plus bas. J'ai essayé, c'est même agréable. Mais si c'est trop de choses à la fois...
Mhm. Ach, Steg. Auch nicht zu nah zum Steg, genau. Ruhig mal fühlen, wie das...
Pas trop près du chevalet, simplement ressentir ce qui se passe. Maintenant, il faut essayer de bouger les épaules sans bouger le violon. Ah, ton épaule gauche est plus haute que la droite. Quelle surprise!
Ja, also einfach mal auf die Schulter achten, weil ich glaube, die macht es, wenn du sonst, wenn du spielst und die Schulter berührt.
Je crois que c'est ce qui fait que quand tu joues, l'épaule touche le violon et il glisse. C'était ça le problème.
Fresco Baldi. Ah ja, den leicht, Schlüssel leicht. Ja.
Les violons qui ont le plus de réputation sont ceux de Jakob Steiner qui, au milieu du siècle passé, vivait dans un petit bourg du Tyrol nommé Absam, près d'Innsbruck, capitale de ce pays. Ce célèbre artiste, qui a travaillé pendant plus de 70 ans avec une quantité d'ouvriers qu'il avait dressés, finissait tous les violons de sa propre main et il en a fait un nombre prodigieux, étant parvenu à l'âge de près de 100 ans. Les violons originaux de ce fameux artiste, c'est-à-dire ceux auxquels aucun facteur moderne n'a touché en dedans, sont très rares et très recherchés. Les violons de Cremone sont aussi très renommés. Il y en a de deux sortes, savoir ceux qui ont été travaillés par les Amati et ceux qui sont de la main de Stradivarius. Entre les premiers ont excellé primo André Amati, qui a été le maître de Steiner au commencement du siècle passé, ces violons, quoique d'une forme désagréable, sont recherchés par ceux qui aiment dans cet instrument un son doux et gracieux. Secundo, les frères Antoine et Jérôme Amati, contemporains de Steiner, ont fait des violons admirables, fort recherchés et fort chers. Tertio, Nicolas Amati, qui a fait des violons excellents, mais parmi lesquels il y a un choix, parce qu'ils ne sont pas tous d'une égale bonté. Entre les habiles facteurs moins anciens, on compte Antoine Stradivarius, qui, ainsi que Steiner, a vécu longtemps et a fait une prodigieuse quantité de bons violons. Ces instruments sont remarquables par un son mâle, très fort et mélodieux. Les Amati ont fait des violons bombés et voûtés. Stradivarius, au contraire, les a fait presque tout plats et cependant, ces deux formes opposées ont produit des instruments également parfaits. Entre les facteurs établis en France, on distingue Boquet, Pierret, Castagnieri et d'autres qui ont fait des violons qu'on peut comparer à ceux des facteurs les plus célèbres que nous venons de citer. L'Encyclopédie, Paris, 1785. On a des textes, David Mestri, des textes qui ne sont pas d'hier non plus. On a ce savoir-faire qui essaye de réinventer le mystère ou de retrouver le mystère.
Et déjà en 1785, c'est un art du passé, presque que celui des Amati. Et dans cette encyclopédie, on vous explique comment construire de A à Z un violon, mm-hmm. comme le fait durant ce stage qui occupe notre semaine Pierre-Louis et Philippe Mottet dans cet atelier de Gruyère.
Même si au XVIIIe siècle déjà, on avait de la peine à trouver des violons dans leur jus encore, comme on le dit volontiers aujourd'hui. Hein, donc ils avaient déjà été trafiqués traficoter. Et c'est l'inverse qu'on essaye de faire cette semaine grâce à cet atelier de musique ancienne. On essaye de retourner vers le plus archaïque, vers le plus original, vers le plus authentique possible, avec Claudia Hoffmann. Alors après, il faut encore savoir en jouer et retrouver aussi cette culture du geste, cette culture de l'approche, du son, du rythme, notamment de la couleur. Claudia Hoffmann avec ses élèves. Mais là, on va la retrouver à votre micro, rien que pour nous, David Mechtin.
Voilà, elle m'a accompagné précisément dans cette salle de garde du château de Bruyères où a lieu l'atelier pour voir comment se construit cette table, ce fond de violon qui sont au troisième jour de leur construction. Claudia Hoffmann, qu'est-ce que vous attendez d'un violon baroque comme celui qui est construit ici? Quelle doit être sa qualité principale par rapport, par exemple, à un violon moderne?
Alors, naturellement, un beau son, comme pour n'importe quel violon, un son très rond, riche en harmonique, un son plein de douceur, mais qui soit assez fort. Un violon baroque doit être sonore, il doit pouvoir jouer fort, mais ce n'est pas la même force qu'un violon moderne. Le son est plus rond, et un violon baroque est aussi destiné à de grands espaces, comme une église ou une bonne salle.
Pierre-Louis m'a dit que le violon qu'il construit ici est plutôt rustique, il est très ancien, ungefähr 1630. Quelle est la différence entre un violon italien de 1600 et un violon baroque de l'époque de Bach de 1750?
En général, les violons baroques ont beaucoup de différences entre eux. Il n'y a par exemple pas de norme pour la longueur de la touche. Cette norme n'est arrivée que beaucoup plus tard. On peut dire généralement que des violons les plus anciens ont des manches plus courts, mais c'est en fait une très grande diversité qu'on a là. Le manche est plus ou moins mince ou long. Il y a beaucoup plus de différences que le violon moderne qui est standardisé.
Vous avez haben Sie einen Lieblingsluthier in Deutschland oder?
En fait, quand je joue du violon baroque, je préfère jouer de vrais instruments anciens plutôt que des copies.
Mais il faut aller chez le luthier pour régler.
Bien sûr, il y a un luthier à Fribourg, en Brisgau, à qui je confie nos instruments. Et aussi, depuis que je vis en partie en Angleterre, il y a aussi un luthier anglais chez qui je vais.
Et vous vous êtes intéressé au travail du luthier et à... Ça vous intéresse le travail du bois et la construction?
Pas tellement, à vrai dire. Je ne suis pas très douée manuellement. Simplement, je trouve ça passionnant, mais je ne me ferai jamais confiance pour construire un violon.
Violon. Le violon est un instrument de musique à cordes et à archets, représenté figure 7, planche 13, des instruments de musique, tome 3 des gravures. Cet instrument, comme tous les autres de son espèce, est composé de deux tables contournées, comme on voit dans la figure 7. Celle de dessous est ordinairement de hêtre et est de deux pièces collées, suivant la largeur. Celle de dessus, sur laquelle porte le chevalet qui soutient les cordes, est de sapin ou de cèdre, comme les tables de clavecin. Les deux tables sont jointes ensemble par les bandes de bois qu'on appelle éclisses, hautes d'environ 18 lignes, et dont la largeur détermine l'épaisseur du corps de l'instrument. Ces éclisses sont de bois de hêtre.
Il les leçons que vous donnez dans cette classe d'interprétation, Claudia Hoffmann, s'inspirent, je l'ai lu, du traité de Geminiani. C'est bien ça qui date de 1751. Vous avez choisi ce traité en particulier pour des raisons spéciales ?
Oui, bien entendu. La tenue du violon baroque était très différente de celle d'un violon moderne. Il n'était d'abord pas du tout coincé, mais simplement appuyé librement sur la clavicule. Et le coussin n'est utilisé qu'au milieu du XVIIe siècle, occasionnellement, comme soutien pour les changements de position. Et Geminiani est quelqu'un qui avait des doigtés tout à fait géniaux. Dans sa méthode de violon, il y a surtout deux études où ses doigtés sont notés par Geminiani. Et avec ses études, on peut apprendre cette technique. Il la décrit également. Ce traité est en fait relativement tardif. Il regarde plutôt vers la technique du passé, mais tout est si bien noté qu'on peut l'utiliser avec beaucoup de profit pour apprendre cette technique. J'ai moi-même appris par ce traité et on peut très facilement le transmettre.
Et pour les élèves, vous avez bien essayé de montrer la différence entre les violinistes italiens et les violons français. Et c'est vraiment deux façons de jouer très différentes à l'époque baroque.
Oui, ils étaient même pour certains en dispute les uns contre les autres, les Italiens et les Français, ils combattaient musicalement. Mais il y a aussi une influence mutuelle, ils apprenaient les uns des autres. Pour moi, la musique italienne est plus directe, plus sauvage, simplement plus directe dans son expression, alors que la française est un peu plus retenue, les émotions sont plus mises en forme, oui.
Et puis, les élèves que vous avez sont pour la plupart des violonistes qui jouent pour la première fois ou presque sur des instruments anciens. Quelle est la première habitude, mauvaise habitude qu'il faut perdre pour jouer du violon baroque comme il faut ?
C'est une bonne question. Quand on die Geige hochnimmt, geht immer gleich die Schulter hoch und vor.
Quand on lève son violon, l'épaule monte et s'avance toujours en même temps. C'est la première chose dont il faut se défaire. En fait, on essaye de rééquilibrer le corps du violoniste sur le violon baroque. Et je trouve qu'on devrait le faire aussi sur un violon moderne. Il faut trouver la position pour tenir l'instrument sans devoir tordre son corps. Le violon doit venir à moi et je ne dois pas déformer mon corps pour que le violon se place bien. Et c'est incroyable le nombre de violonistes modernes qui ont ce réflexe de mouvement, vraiment. Et la deuxième chose, c'est le vibrato. Ils ne le remarquent plus, ils commencent à vibrer et ne se rendent même pas compte si on ne leur fait pas remarquer.
Et pour le jeu de l'archer, c'est très différent ?
Oui, ça aussi. L'archet moderne se pose en fait tout droit, plus plat. Il fait donc des coups d'archet plus grands et plus longs, alors qu'un archet baroque peut parler et articuler plus. Il est aussi plus léger et on doit d'abord apprendre à s'habituer au poids plus léger. On peut davantage appuyer avec l'index pour amener plus d'intensité, ce qu'on ne peut pas aussi bien faire avec un archet moderne. Bien sûr, l'archet moderne a d'autres avantages, il a une fonction très différente. Mais ces finesses de l'archet baroque, il faut les apprendre.
Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie, extrait de l'Encyclopédie méthodique, Paris, 1785. 4. Instruments à cordes et à archets. On ignore l'origine du violon. On ne le croirait inventé que vers le 9e ou 10e siècle, si quelques monuments antiques ne donnaient pas la représentation exacte de sa forme. On peut voir dans les tableaux de Philostrate, page 85, sur un puits antique, plusieurs violons presque semblables à ceux de nos jours, excepté que le manche est plus court. Amphion est aussi représenté, page 76, jouant d'une espèce de viol ou violon à cinq cordes, avec un archet semblable au nôtre et tout à fait différent du plectrum des anciens. Reste à savoir, comme nous l'avons observé, si le dessinateur n'a pas transformé le plectrum en archet et si, dans la confusion de l'image, il n'a pas imaginé un archet qui était sous ses yeux au lieu d'un autre objet qui était effacé. En effet, le puits sur lequel on voit ou l'on croit voir ces violons semblables aux violons modernes se trouve sur d'anciennes médailles d'argent que fit frapper Scribonius Libo, homme considérable chez les Romains. Or, on conçoit combien ces objets accessoires sur des médailles antiques doivent être petits et peuvent tromper l'œil de l'observateur. Tout cela ne pourrait être que des paroles, celles de Claudia Hoffmann, mais on va les mettre en perspective et surtout en acte, David Mestri, avec les petits élèves de Claudia Hoffmann, je dis petits, c'est-à-dire que certains d'entre eux, et la plupart, n'avaient encore jamais touché de violon baroque.
Voilà, même si c'était pour la plupart des violonistes confirmés.
On est d'accord.
Et même d'un certain âge pour certains, ce qui est assez honorable de se remettre en cause comme ça, dans le cadre d'une classe donc organisée à Gruyère. Et l'élève que nous allons écouter pour conclure cette émission, c'est Damaris Genin, une jeune violoniste bulloise en classe professionnelle qui essaie d'interpréter sur un instrument auquel elle s'initie dans cette leçon une musique française pour violon signée Louis-Antoine Dornel.
Tu dois savoir si tu vas utiliser un quart ou la moitié de ton archet. Plus la note est longue, plus lentement tu dois commencer à frotter l'archet. Entre deux, tu peux lever très légèrement ton archet. Parfois, on l'a vu hier avec Anne-Catherine pour Couperin, avant une note que l'on veut attaquer très bien, tu peux lever légèrement l'archet pour mieux placer le suivant.
Bevor eine Note kommt, die man ganz gut setzen will, kann man den Bogen ganz leicht anheben, dann sitzt die andere besser. Also zum Beispiel. Ja. Heben. Ein ganz bisschen, um den nächsten wieder gut zu setzen. Ja? Jetzt? Ja, gut. Jawohl. Und jetzt lange Note? Jawohl. Und Linie?
Tenir la ligne bien, encore.
Schön. Nochmal? Sehr stolz.
Fièrement.
Und heben?
Lève.
Und neu? Und lange Note und weiter? Und weiter. Und schließen. Schließen? Gut.
Et conclut jetzt bien, genauso. La même chose.
Und Richtung.
Donne la direction.
Die ist länger. Mach's nochmal. Da kannst du noch besser gliedern.
Tu peux encore mieux articuler.
Was hast du denn da für einen Strich? Hast du da einen guten? Gar nichts. Dann würde ich da zwei.
Là, je ferai deux poussées pour commencer. Le sol avec un tiré. Je crois que c'est bien.
Dann. Auch da auf dem D nicht zu schnell streichen, lass dir Zeit.
Là sur le Ré, ne pas tirer trop vite. Laisse-lui du temps, puis de nouveau plus lentement.
Und dann hast du Zeit, die lange Note wirklich zu machen. Und auch jetzt habe ich keinen Bass, weiß nicht, was da passiert.
Là, tu as le temps de vraiment faire la longue note.
Okay. Eins, zwei, drei. Lang. Ja, und da passiert aber was im Bass. Und zwar, jetzt musst du mal gucken, da hat der Bass noch einen Wechsel.
Là, il y a quelque chose qui se passe à la basse. Et tu dois faire attention. Ici, la basse a quelque chose d'assez intéressant sur le premier temps. Tu dois l'écouter et après, tu peux continuer. Tu prends l'impulsion et tu continues.
Und bauen. Zwei. Und weich. Ja. Und schließen. Und weiter. Warm. Und dahin. Und höher. Und
Schluss und noch mehr. Er wollte wiederholen.
Gut, prima, prima. Du kannst beim Schlusston wieder auch diese sehr, sehr langsam.
Wenn tu peux faire la dernière note très, très lentement. Ça fait un effet terrible.
Lässt du den einfach noch endlos liegen, fast. Das wäre noch schön. Das ist sehr, sehr schwer, sowas. Ne? Das ist zwar nicht technisch schwer, aber.
C'est très, très difficile, une chose comme ça. Pas techniquement, mais avec toute cette histoire d'Archer.
Je me permets de remercier en votre nom, vous qui écoutez Musique en mémoire, Claudia Hoffmann, la professeure de violon baroque dans cet atelier, atelier de musique ancienne, quatrième du nom, qui a eu lieu cette année à Gruyère, comme chaque année d'ailleurs à Gruyère, dans ce cadre incomparable, David Maestri. Ce qu'on entendait là, c'est une page de Niccolo Corradini.
Exact, une sonate intitulée La Sfondrata de ce compositeur qui est un des premiers à écrire pour le violon. C'est pas si ancien l'écriture de pièces pour violon solo, ça date du début du XVIe siècle, l'époque de Monteverdi. Et Niccolo Corradini, dont on ne sait pas la date de naissance mais qui est mort en 1646, est un personnage assez important. Et cette sonate était dédiée à l'évêque de Crémone, un autre Niccolo Sfondrato, qui était un grand mécène, qui deviendra pape sous le nom de Grégoire XIV un peu plus tard. Et ce Niccolo Sfondrato a mené la ville de Crémone à la prospérité éblouissante qui est la sienne, avec ce nom qui est lié indissociablement à la lutherie qui fait l'objet de cette série de musique en mémoire, Jean-Luc.
Voilà ce qu'on pouvait dire et entendre de cette classe de maîtres gruyérienne. De quoi sera-t-il question demain, David Maestri, dans cet atelier de violon baroque?
Un autre des invités prestigieux de cette semaine gruyérienne était le violoniste argentin Manfredo Kremer. Oui. C'est lui qui sera à mon micro demain.
D'accord.
Qui a visité aussi cet atelier, qui a participé à un concert avec son compatriote, le luthiste Eduardo Egues. Nous l'entendons déjà, Manfredo Kremer, ici, en soliste de cette sonate en mi mineur de Jean-Marie Leclerc. Thank you.
Cette sonate en mi mineur, la première de l'opus 2 de Jean-Marie Leclerc, l'a interprétée par Manfredo Kremer, David Mestri. Manfredo Kremer qui était présent lors du récent atelier de musique ancienne de Gruyère, et Manfredo Kremer qui sera votre invité demain. Il a plus d'une couleur dans sa palette.
Voilà, il a été enregistré aussi par les micros d'Espace 2 et de notre collègue Jean-Claude Renaud lors de concerts qu'il donnait le vendredi soir 1er septembre. Et Manfredo Kremer proposait, après une première partie consacrée à la musique ancienne italienne, une touche argentine précisément à sa musique. Il avait joué du violon et d'une sorte de rebec, qui est un instrument à cordes frottées originaire du Brésil, dans quelques pages qui sont plutôt du côté du tango et de la musique populaire brésilienne. Thank you.
La part argentine de Manfredo Kremer est là d'Eduardo Egues dans ce concert enregistré par Espace 2, un concert qui avait lieu dans le cadre de l'atelier de musique ancienne de Gruyère en septembre, où nous retournerons demain, David Mestri, en votre compagnie et en compagnie de Manfredo Kremer, toujours pour aller plus avant dans cet art du violon baroque, de la construction du violon baroque et pour aller plus loin dans cet atelier de ce violon. Merci beaucoup David Mestri.
Je vous en prie Jean-Luc.
Voilà, cette émission peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. Et c'est Dominique Stalder qui, cette semaine, signa la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet, espace2.ch.
L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous avons rendez-vous, nous, demain à 9h. Dans cet atelier de violon baroque, d'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.